يا إله الكون قد أسلمت لك.
Comprendre l'islam.
يا إله الكون قد أسلمت لك.
Une émission présentée par Malika Lafer, Kamel Shekat et Saïd Boutarfa. Réalisé par Youssef Nejimi.
Comprendre l'islam, nous parlerons ce matin de la réforme donc en islam. Nous avons dit que la civilisation, la semaine dernière, islamique faisait partie donc intégrante de la civilisation humaine et qu'elle repose donc sur les valeurs. Alors, Monsieur Shekat, le sens de la réforme, son impact donc sur les nations, son développement, et puis donc il y a les trois phases que vous allez nous développer.
Absolument, mais avant même de développer ces trois phases, il y a, j'aimerais revenir sur le sens même du mot réforme chez les musulmans, parce que certains pourraient l'assimiler au mot réforme chez les chrétiens. La réforme chez les chrétiens est une phase de leur histoire où il y a eu un schisme, une séparation entre les églises, et il y a eu la naissance de l'église protestante incarnée par Martin Luther. Mais bon, la réforme chez le musulman veut tout simplement dire « islah ». Car il y a une très grande différence entre salih, bon, et muslih, réformateur. Et s'il n'est pas mal du tout d'être salih, d'être bon, ce qui est souhaité beaucoup plus, c'est de devenir réformateur, c'est-à-dire
d'accompagner plutôt, ça avec des actions.
Plutôt que d'être quelqu'un dont la bonté ne profite qu'à lui-même, eh ben, il faut faire en sorte que cette bonté puisse
profiter, partager
et puisse profiter au maximum de gens. Alors, tout d'abord, quand nous parlons de réforme et de l'impact que peut avoir le sens de la réforme sur une nation, sachez que le Coran assimile une nation ou la vie d'une nation à celle d'un être humain. Dans Sourate Younes, il est dit, à chaque nation a un terme, quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Les kulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Ce qu'on appelle ajal.
Oui, et Ibn Badis, justement, qui est un grand réformateur, rapporte dans son livre, dans son exégèse, ou du moins ce qui reste de son exégèse, Majalis al-Tadhkir, que chaque nation passe pratiquement par trois étapes. Alors la première phase est celle de l'émergence. C'est pratiquement la naissance chez un être humain. Mais pour qu'il y ait émergence, la nation en question doit réunir les conditions requises à cette émergence. Ce qui veut dire que la nation va devoir travailler très dur et œuvrer afin qu'elle puisse se placer parmi les nations fortes. Nous parlions la semaine dernière du civisme. Et le civisme, justement, fait partie des choses qui doivent être entreprises pour que cette nation émerge. Nous avons un exemple des Juifs qui vivaient sous la domination de Pharaon. Ils ont attendu la venue de Moïse pendant des décennies. Quand Moïse est apparu et quand ils ont su que c'était le prophète tant attendu, ils n'ont pas été délivrés pour autant. Comme le rapporte Sourate Al-A'raf, Moïse alayhi salam, a commencé par leur inculquer les valeurs qui leur permettraient de se libérer. C'est-à-dire, pour se libérer, il faut d'abord avoir en soi le désir d'être libéré, ce qui est en soi la base même de la réforme. Il leur disait « Demandez aide auprès de Dieu et soyez patients ». Alors, parce que la patience est l'une des vertus, justement, des gens qui aspirent à avoir une vie meilleure que celle qu'ils ont. Et là, le peuple n'a pas été patient. Il lui en dit, justement, « Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous, et après t'en arriver. » Et c'était des gens qui non seulement ont attendu la venue de Moïse, mais qui croyaient que par sa simple venue, tout allait changer comme par enchantement. Eh bien, ça n'est pas le cas. Le Coran nous explique que, justement, pour changer en bien, il faut travailler très, très dur. Ça, c'est déjà la première partie qui va permettre à une nation d'émerger, qui va permettre à une personne de forger son esprit.
Alors, Monsieur Chekat, on va revenir sur justement le Malhoum Ben Badis, qui était donc un grand réformateur, qui a vécu dans une époque un peu spéciale, où il y avait la colonisation. Il apprenait des valeurs. Quelles ont été les valeurs qu'on peut retenir aujourd'hui dans son discours très réformateur ?
Justement, déjà, cette manière d'avoir pu apporter au Coran une nouvelle lecture dans son exégèse, il développe des théories carrément. Il est on ne peut plus visionnaire.
C'est-à-dire, il incite à une éveil de conscience.
C'est ça, cela même. Et justement, quand je parle des phases de développement justement d'une nation, je me réfère à lui. C'est lui qui parle justement de ça. Alors déjà, comme nous le voyons tout à l'heure dans la première phase, telle que lui-même l'a décrit, c'est beaucoup plus une prise de conscience, un désir d'améliorer sa condition, etc. Et c'est comme ça que commence la réforme. Ensuite, il y a la deuxième phase qui est celle même du développement, celle qu'on peut assimiler à la force de l'âge, à l'âge adulte chez l'être humain. Ibn Badis parle justement de nations qui ne peuvent arriver à ce stade qu'après avoir réuni et regroupé toutes les conditions justement de réussite. Les conditions de réussite. Nous avons déjà des conditions qui sont purement religieuses, qui ont un rapport directement avec Dieu. Par exemple, dans Sourate Al-A'raf, Dieu vous exhorte beaucoup plus à reconnaître ses bienfaits pour qu'il vous accorde son aide et son assistance et qu'il vous permette de réussir dans votre vie. Il est dit, par exemple, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. C'est-à-dire que si vous avez un bon comportement avec Dieu, Dieu va automatiquement vous porter aide et assistance et faire en sorte que vos conditions, du moins matérielles, soient sinon optimales, acceptables.
Donc et il recommande surtout de la vaillance.
Vis-à-vis de Dieu. Mais voilà, actuellement, nous les musulmans, nous avons tendance à voir les choses sous un œil quelque peu spécial. Par exemple, vous allez prendre un homme de masse ici en Algérie. Pour lui, qui ne fait absolument rien dans le bon sens, il est mille fois meilleur qu'un homme d'Occident. Bon, ce qui est spirituellement clair, le fait de croire en Dieu vous place automatiquement au-dessus de ceux qui ne croient pas en Dieu,
religieusement parlant, est-ce que par exemple un Européen ou un Américain qui croirait en Dieu, pourquoi nous sentirions plus supérieurs à ces gens-là?
Le plus gré auprès de Dieu est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. La chose ne concerne pas les êtres humains entre eux, elle concerne Dieu. Dieu a ses préférences, tout comme vous avez des préférences pour des personnes qui font partie de votre entourage immédiat. Vous allez préférer une personne A à une personne C parce que la personne A a un comportement avec vous qui est meilleur que celui de la personne C ou D, etc. Il en est de même pour Dieu. Mais là, n'oubliez pas, wa ma rabbuka bidhallam min al'abid. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Et dans cette justice, justement, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de gens me disent pourquoi Dieu favorise les Occidentaux alors que ce sont des mécréants, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu comme il se doit, comme il devrait croire en lui. Pourquoi leur donne-t-il une prééminence sur nous qui sommes croyants? Voilà ce que vous dit Dieu dans Sourate l'Isra. Nous accordons abondamment à tous ceci comme cela, en parlant des croyants et des mécréants, des dons de ton Seigneur. Donc il accorde aux deux parties de ses dons, et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Dans son infinie justice, Dieu traite tout le monde avec équité. C'est-à-dire, vous vous levez le matin très très tôt. Vous allez dans votre champ, vous labourez, vous semez, vous travaillez votre champ. À ce moment-là, vous pouvez espérer une bonne récolte. Si vous ne le faites pas, ça n'est pas le fait de croire en Dieu qui va faire en sorte que vous ayez
une récolte super bonne.
Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il y a un minimum de choses que doit faire la personne pour mériter les bienfaits de Dieu, aussi bien matériels que spirituels. Les gens doivent bien comprendre tout cela, tout s'inscrit dans une justice implacable, incroyable. Si vous ne faites pas, si vous n'entreprenez pas les démarches nécessaires pour réussir, vous ne réussirez jamais. Nous appelons ça Sunan al-Kawniya. C'est une histoire d'hommes et ces hommes doivent avoir en eux-mêmes, ils doivent être porteurs du sens même de la réforme. J'ai envie que les choses évoluent et changent en bien. Je dois agir pour que ces choses-là changent en bien. Ensuite,
parfois le chemin est beaucoup plus long, donc ça dépend de l'endurance de l'homme aussi.
Bien sûr. Et puis Dieu nous met en garde justement parce que la troisième étape ne peut être que le déclin. Après la force de l'âge, c'est l'âge généralement sénile. Et là, ce qui est clair, c'est que Dieu nous met en garde justement contre la déviation, contre tout ce qui peut favoriser l'anormal, tout ce qui peut changer les choses, du bien au mal, etc. Et il dit par exemple... Telles sont ces villes que nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des injustices et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. C'est-à-dire que quand une nation ne mérite plus d'être protégée ou de recevoir les bienfaits de Dieu, c'est l'inverse qui va se produire. Il dit aussi « Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes ». Là,
l'homme n'est pas responsable, il s'autodétruit, il détruit, il est aussi destructeur.
Oui, écoutez, ce que nous voyons là actuellement au sommet de Copenhague, c'est quoi? C'est justement c'est le mauvais comportement de l'homme qui a abouti à cette situation de crise. Dieu nous informe que sa punition envers les nations injustes se caractérise par l'apparition généralement de deux fléaux, qui sont l'insécurité et la famine, les problèmes économiques. Il dit par exemple, il dit ça dans Sourate An-Nahl, Dieu propose en parabole une ville, elle était en sécurité, tranquille, sa part de nourriture lui venait de partout en abondance, puis elle se montra ingrate, au bienfait de Dieu. Dieu lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait.
Enfin, dans certains pays africains, il y a la sécheresse, on ne mange plus, c'est la famine, vous pensez qu'ils sont responsables?
Écoutez,
c'est l'homme dans toute sa généralité, le réchauffement climatique,
c'est ça? C'est un concert de facteurs qui a contribué à cette situation, mais il n'en demeure pas moins que la cause la plus importante, c'est l'homme. Il y a de l'injustice, il y a aussi le fait que les gens ne veulent pas travailler, etc. Il y a une chose. Aïcha radiallahu anha a posé une fois une question au prophète alayhi salatu wasalam. Le prophète a parlé justement de ce que pouvait encourir une nation si elle déviait du droit chemin. Et il a parlé des différents supplices et tourments que pouvait faire subir Dieu à la nation en question. Et elle a dit à un moment donné, « Awanahlaku wa fina salihun » Péririons-nous alors qu'il y aurait parmi nous des gens de bien? Il a dit oui. Et même que dans certaines sentences, c'est les gens bien seraient les premiers à partir. Pourquoi? Parce que soit pour leur épargner justement les tourments du châtiment divin, de subir cela, soit parce qu'ils n'ont pas joué le rôle de réformateur. Il est dit dans un verset, « Wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bidhulmin wa ahluha muslihun » Dieu n'inflige pas une punition à une nation alors que ses habitants sont des réformateurs. Là se joue toute la différence.
Il y a un phénomène qui intervient aujourd'hui au XXIe siècle, c'est l'individualisme.
C'est ça.
Ça, c'est le grand mal.
Oui, déjà, nous avons un hadith, « Madame yahtama bi umuri al-muslimina falaysa minhum ». L'homme, comme nous le disions la semaine dernière, est fait pour vivre en communauté. Vous savez, il y a un hadith qui dit « Celui qui se mêle aux gens et qui se montre patient face à leurs agressions vaut mieux que celui qui ne se mêle pas à eux et qui n'est pas du tout patient ».
Oui.
Un bon nombre de hadiths nous exhortent à nous mêler aux gens, à vivre avec eux, à subir, à tenter de changer les choses, à les faire évoluer dans le bon sens. Et nous n'avons pas le droit de nous isoler. À un moment donné, avant la venue de l'islam, le religieux était celui qui s'isolait dans un monastère. D'ailleurs, en arabe, on dit toujours « rahibun fi sawma'atih ». Un religieux, un moine, isolés en train d'adorer Dieu. C'était peut-être à l'époque une forme d'adoration qui était très très admise, vu qu'il n'y avait pas de prophète, qu'il n'y avait pas de religion établie. Le judaïsme était une religion que les juifs gardaient pour eux exclusivement, et les juifs n'ont jamais appelé qui que ce soit à leur religion, contrairement à toutes les idéologies que la terre ait pu connaître. Les chrétiens, c'était la déviation la plus totale, le christianisme actuel. On peut le dire sans détour, si Jésus, alayhi salam, revenait sur terre, il ne reconnaîtrait rien de l'évangile, ni de ce christianisme qui existe actuellement.
Parfois et puis, réducteur.
Oui, non, je le dis, je peux donner des arguments aussi.
D'accord, oui.
Mais le problème, c'est que...
En tout cas, ça nécessite un débat.
Oui, c'est clair.
Oui, oui.
On aimerait bien, justement.
Oui, oui.
Et puis, donc, mais cette forme d'adoration, quand l'islam est venu, elle a été remise en question, a été remise en cause. Adorer Dieu, c'est l'adorer sur terre, et être sur terre, c'est subir la terre, vivre la terre, faire en sorte que cette terre soit transmise aux générations futures dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles nous l'avons trouvée, etc. Et tout ça fait de la réforme et du civisme dont nous avons parlé la dernière fois, deux formes de religiosité qu'on vit au jour le jour.
Monsieur Chekat, en substance, la réforme en islam, qu'est-ce qu'on y retient? C'est le travail, le labeur, la croyance
C'est le fait de tout inscrire dans une logique de mouvement.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut être bon en étant statique, mais on est doublement bon en étant en mouvement, en étant toujours en train d'essayer de chercher des solutions pour évoluer, pour améliorer les choses.
Merci. Alors avant de nous séparer, nous avons reçu une lettre de certains Ali de Wadarmen. Alors, il a une question un peu pertinente, mais à laquelle on y répondra, bien sûr, Monsieur Chekat. Il est entouré donc de haut-parleurs de mosquées, et le matin, il est réveillé en sursaut, et il dit que ça le perturbe. Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse à propos de cela.
Écoutez, mon premier, justement, cheminement, mon premier pas dans la religion en tant que comme de religion, entre guillemets, parce que, bon, en islam, cette notion d'homme de religion n'existe pas. Donc, les premières fonctions que j'ai pu assurer, c'était celle de muezzin, muaddin. Mmh. Et j'ai même eu l'honneur d'être muaddin attitré de Cheikh Ahmed Sahnoun. Cheikh Ahmed Sahnoun, Allah yarhamou. Et à l'époque, ce qui était favorisé, c'était les gens avec de belles voix. Et ça n'est pas une innovation. Le prophète, alayhi salatu wasalam, insistait pour que ce soit Bilal al-Habashi qui fasse l'appel à la prière, parce qu'il disait « Innahu anda sautan ». Dans une autre version, « Fa'innahu ashja sautan ». Il avait une très très belle voix, une voix douce, une voix qui portait bien, etc. On a toujours fait en sorte que ceux qui faisaient l'appel à la prière obéissent à ces critères. Le problème actuellement, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas été formés, et puis pour être muaddin, il faut être formé. Je suis désolé pour ceux qui trouvent la chose
trop banale. Il y a un sens artistique, esthétique.
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi makharij al-huruf, il y a aussi dobt al-awqat. À l'époque coloniale, le muaddin était appelé bêche muaqqat, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait une connaissance parfaite du moment où il devait faire l'appel à la prière. Sachez qu'à un moment, on n'avait pas forcément l'heure et on n'avait pas des calendriers préétablis à l'année. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans beaucoup de mosquées, on devrait diminuer un peu le son. Ceci ne porte pas du tout préjudice ni à l'islam, ni à la religion.
Voilà, parce que je pense que sa question était une superficie assez restreinte. Donc la sono, il faut vraiment baisser la sono, comme dirait Monsieur Chekat. Alors, continuez à nous écrire « Comprendre l'islam en un seul mot » @algerian-radio.dz. Merci, amis auditeurs, et nous vous retrouvons, si Dieu le veut, la semaine prochaine à la même heure.